Alors, il y a des débats encore aujourd'hui pour savoir si la Chine est la première ou la deuxième puissance économique du monde par rapport aux États-Unis. Sur le marché du e-commerce, il n'y a pas de débat, il n'y a aucun doute. La Chine est loin devant tous les pays, y compris enfin, tous les pays occidentaux qui ont commencé le e-commerce bien avant la Chine. On a aujourd'hui un internaute sur cinq qui est chinois, et ça représente 1 milliard d'acheteurs 1 milliard d'acheteurs en ligne. Il y a à peu près donc 750 millions d'internautes en Chine. Je rappelle là que la population est d'1,4 milliard, et donc on a un peu plus d'un demi-milliard d'acheteurs en ligne. C'est à peu près la même valeur, enfin c'est le même chiffre quand on parle de ce que représente le marché en valeur, en dollars, si on s'intéresse uniquement au B2C, parce que le marché du e-commerce B2B est également important. Là, on a voulu retenir que le chiffre du secteur du B2C, comparé là au chiffre de la FEVAD de 2017, on voit que le marché est 5 fois plus important en Chine. Alors, quand on parle de e-commerce en Chine, c'est relativement simple pour ce qui est de la manière avec laquelle le marché est structuré au niveau domestique, parce qu'en fait, on parle que des places de marché quasiment. Il n'y a pas beaucoup de places pour des sites de e-commerce, je dirais, en dehors des places de marché, il n'y a pas beaucoup de places pour les sites de e-commerce. On voit les deux grands acteurs dont vous avez certainement entendu parler, Alibaba, avec là on est en B2C, hein, donc on parle de la plateforme, de la place de marché Tmall du groupe Alibaba. Derrière le nom Alibaba, en fait, vous avez derrière ce groupe, vous avez plusieurs places de marché. La plus ancienne, c'est Taobao, c'est plutôt du C2C. Il y a de plus en plus de B2C aussi, mais au niveau domestique, en B2C, la place de marché leader du groupe Alibaba est quasiment, enfin en Chine, c'est Tmall. Et puis ensuite, le challenger qui s'est installé aussi maintenant en France, ils sont en France depuis 1 an, c'est le groupe Jingdong. JD.com, qui représente 25% du marché. Après, vous avez des acteurs plus petits. Ce qui est amusant, c'est de voir la part de marché du premier acteur occidental, qui est le plus connu, celui que nous connaissons le mieux, qui est Amazon. Vous voyez qu'en Chine, il n'y a pas eu beaucoup de possibilités pour Amazon de percer. Pour ce qui est du cross-border, quand on rentre dans la catégorie e-commerce cross-border, c'est-à-dire le fait pour des consommateurs chinois d'acheter des marchandises qui viennent directement de l'étranger, il y a d'autres places de marché, donc spécialisées sur ce type de transactions. Et là, il y a un peu plus d'acteurs, c'est un peu plus disputé. On retrouve le groupe Alibaba avec non pas Tmall, mais Tmall Global. On retrouve le groupe JD. Non pas avec JD.com, mais JD Worldwide. Et puis il y a un acteur qui est un peu moins connu en France, en tout cas, qui est Kaola, qui appartient à un groupe mondialement connu, mais pas pour le e-commerce, pour les jeux vidéo, qui est le groupe NetEase, et qui a développé sa place de marché cross-border Kaola, qui marche très très bien. Après, on a des acteurs un peu plus petits. Le e-commerce, donc, est un secteur florissant. Le e-commerce de marques étrangères, lui, il est en plein boom. Sa croissance est encore beaucoup plus rapide que le secteur du e-commerce en général, parce que, bah, on dit donc que désormais, presque un Chinois sur deux ose, un acheteur chinois sur deux sur le web ose acheter des produits directement de l'étranger. Et il ose d'autant plus que il recherche effectivement des produits plus qualitatifs, des marques dans lesquelles il a confiance. Vous avez entendu parler certainement d'un certain nombre de crises sanitaires. Il y en a une qui a eu beaucoup de retentissement, qui est celle des années 2008-2009 sur le lait mélaniné, mais il y a eu d'autres scandales sanitaires. Donc il y a pas mal de défiance de la population envers les marques nationales. Ça a été un gros facteur de développement du commerce cross-border. Ensuite, il y a un cadre réglementaire qui est très, très, très favorable. On appelle ça le décret 43. Il présente trois types d'avantages pour des marques étrangères qui veulent rentrer directement en Chine. Vous savez que quand vous passez, et ça reste le gros du marché, par un importateur-distributeur, là en l'occurrence chinois, eh bien vous devez enregistrer vos produits, vous devez enregistrer vos marques auprès des autorités de contrôle, c'est la CIIC, c'est la CFDA, la China Food and Drug Administration, et ça, ce sont des procédures qui sont longues et coûteuses. Dans la cosmétique que je connais mieux, qui est un secteur que je connais mieux que la puériculture, puisqu'on a commencé avec la cosmétique la boutique France il y a 2 ans, c'est de l'ordre de 1 an par produit, par marque, et en plus, c'est pour obtenir cet agrément, et il faut renouveler ça tous les ans. Eh bien, quand vous vendez en B2C sur ces plateformes cross-border, eh bien, vous n'avez pas en besoin d'enregistrer votre produit et vos marques auprès des autorités de contrôle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Il est conseillé, en tout cas, d'enregistrer sa marque pour la protéger en termes de droit de la propriété intellectuelle, mais pour avoir le droit de mettre à la consommation des produits sur le marché chinois, en passant par le cross-border, inutile de passer par cette étape d'enregistrement. Et ça, c'est un énorme avantage et une arrivée sur le marché qui est extrêmement accélérée. Deuxième avantage, vous vendez vos produits tels que vous les vendez dans vos magasins ou dans les réseaux de distribution français, c'est-à-dire y compris pour du lait en poudre, des petits pots pour bébés ou que sais-je. Vous utilisez votre emballage en français, pas besoin de le traduire, la notice, pareil, en français, et vous les vendez comme ça. Évidemment, le consommateur chinois qui a besoin de comprendre d'où viennent tous ces produits, lui doit trouver toutes ces informations-là, et elles sont extrêmement détaillées, sur les sites de e-commerce. Mais le produit lui-même voyage de la même manière, en tout cas il est vendu de la même manière qu'il est vendu ici en France. Troisième avantage, c'est le régime fiscal. Au lieu d'avoir des droits et taxes, une TVA, donc elle est à 17% en Chine, et des droits de douane, donc qui dépendent évidemment de la nature du produit, qui s'appliquent sur le coût de la marchandise, du transport, de l'assurance, eh bien vous avez un forfait de taxation. En fait, il y a 3 forfaits de taxation en fonction de la famille de produits. Dans l'alimentaire, mettons, pour tout ce qui touche notamment à l'alimentaire bébé, enfant, c'est 15%. Vous vendez votre produit 100 euros, vous avez 15 euros de droits droit indirects et de droits directs, de TVA et de droits de douane. Pour les équipements, par exemple des poussettes, ce sera 30%. Et le troisième taux de forfaitaire, c'est 60%. Ça, c'est pour les produits de luxe. Ces taux de taxation, en tout cas pour l'alimentaire, 15%, sont très, très inférieurs aux droits et taxes que vous avez à payer quand vous passez par un importateur, distributeur chinois. Alors, pourquoi est-ce que 2018, c'est une très bonne année pour attaquer la Chine dans le secteur de la puériculture? Bon, d'abord, c'est un marché qui est énorme. J'ai lu là, dans la salle de presse, que le marché français est le premier marché européen pour la puériculture. Je ne sais pas combien ça fait en valeur. Le marché chinois, lui, il est évalué à 377 milliards. D'euros pour 2018, et la partie e-commerce, ça fait environ 100 milliards d'euros, et on voit effectivement une croissance, certes, qui se tasse. Hop là, pardon, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Une croissance qui se tasse, on n'est plus à des 100% ou 40% de croissance, mais on est encore à 20% de croissance par an, donc ça reste quand même assez, assez significatif. Pourquoi ? Alors, je vais passer la parole à Binju qui va vous donner des éléments d'explication sur ce marché de la puériculture.
Merci Marc, bonjour tout le monde. Je suis Binju, je m'occupe de la partie social marketing de la boutique France. Maintenant, je vais vous parler de facteurs positifs récents pour se lancer dans le e-commerce de produits puériculture en Chine. D'abord, 2016 est l'année de la fin de la politique de l'enfant unique. Cela a entraîné un croissement des naissances qui devrait culminer en 2018 avec 20 millions de nouveaux-nés. Ensuite, les parents de son nouveau-né sont les millennials. Ces jeunes parents chinois qui sont nés entre 1940 et 2000 sont très attachés à Internet. Ce sont eux le plus gros acheteurs sur le web. En parallèle, enfin, sur la période 2013 à 2018, sur la période 2013 à 2018, la part de marché de vente de produits en magasin a diminué, mais c'est au profit du e-commerce, au profit de puériculture, dont la part de vente croît 6 à 23% du marché global. Ensuite, la spécialisation de sites web marchands de produits PP est une tendance très forte en Chine. Nous avons pas mal de sites dans ce domaine, comme Mia, Bébé, etc., qui proposent suivant de gammes produits plus qualitatives que sur les sites généralistes et surtout donnent plus de place aux commentaires des parents sur la qualité des produits. En plus, un autre facteur favorable au développement des achats de produits d'enfants est la situation économique. Les Chinois deviennent de plus en plus riches. Le pouvoir d'achat progresse 5% par an en moyenne. Par exemple, j'ai une amie qui a envoyé ses enfants à l'école maternelle internationale, sachant que le frais scolaire coûte environ 1 300 € par mois. Et toutes les dépenses comme les vêtements, les nourritures, les livres, etc., ça représente presque 40% de son revenu. Et les parents de nos jours deviennent de plus en plus éduqués et ils veulent et peuvent s'ouvrir des marques qualitatives dont une très bonne part est destinée en priorité de leur enfant qui est le futur de la famille. Maintenant, je vais passer la parole à Marc pour la suite.
Donc, un marché très intéressant qui croît très vite, mais un marché compliqué. On est ici un certain nombre à le vivre au quotidien depuis 2 ans. Les raisons de ces difficultés, alors d'abord, il y a des logiques qui sont très, très, très différentes. Vous avez tous entendu parler, vous savez tous que en français, quand on dit oui, ça veut dire oui. Quand on dit non, ça veut dire non. En chinois, quand on dit oui, ça veut dire oui, j'ai compris. j'ai pris bonne note. Ça, c'est ce qui est le plus connu. Maintenant, il y a d'autres grandes différences. On a du mal à faire du prévisionnel avec nos partenaires chinois et avec les personnes avec lesquelles on travaille. En Occident, en France en particulier, on aime bien modéliser la réalité avant d'y aller. Eux, encore une fois, basés sur notre expérience à nous, on a travaillé avec maintenant 3 acteurs différents, ils partent de la réalité et puis ils s'adaptent. Ils y arrivent en général, mais voilà, on a des décalages de ce type. Donc, il faut vraiment effectivement apprendre ces logiques différentes. Et puis, très important en Chine pour réussir, bon, il faut être présent sur ces sites de e-commerce. C'est compliqué, ça coûte pas mal d'argent. Il faut savoir utiliser les réseaux sociaux. Alors en France aussi, maintenant, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, mais il y a une très très forte intégration beaucoup d'interactions entre les réseaux sociaux et le e-commerce en Chine. Vous avez, j'imagine, entendu parler de WeChat ou de Weibo. On va dire que WeChat, c'est une sorte de Facebook. Weibo, une sorte de Twitter. Nous sommes présents, nous, la boutique France, avec les marques que nous emmenons sur ces deux réseaux. Qu'est-ce qu'on y fait sur ces réseaux? Alors, on peut poser la question, par exemple, à Binju. Est-ce que tu utilises beaucoup WeChat, par exemple?
D'abord, il faut que je précise que je travaille sérieusement tous les jours, donc je ne peux pas passer autant de temps que je veux ici en France. Mais quand même, j'ai passé environ 3 heures sur les réseaux sociaux chinois ici en France. Mais quand je vivais en Chine, je pense que c'était encore plus dedans parce que les réseaux sociaux en Chine sont vraiment des outils indispensables dans la vie de tous les jours. Nous payons tous par WeChat Pay et Alipay, comme nous réservons et payons les taxis, l'électricité, les restaurants, etc., au lieu de l'argent liquide ou de la carte bancaire. Pour moi, les réseaux sociaux en Chine ont créé un nouvel écosystème de Gomex.
En fait, il faut voir WeChat comme nous voyons nous Internet. Toute la journée, vous pouvez rester à l'intérieur de WeChat. C'est ce que font beaucoup de Chinois. Comme a dit Binju, WeChat sert. Bon, à l'origine, c'est un réseau qui permet d'échanger des informations entre proches, entre amis et famille. Et puis, petit à petit, il y a des fonctionnalités qui sont ajoutées. Je crois qu'on a maintenant à peu près une quarantaine de fonctionnalités sur WeChat. Il y a un exemple que je donne souvent. L'année passée, j'étais à Shanghai. Je sors avec une hôte de mes collaboratrices chinoises pour dîner. On voit un resto qui a l'air sympa. Elle me dit attention parce que ça c'est un resto WeChat. Donc je dis bon bah c'est pas grave, on va y aller. On s'assoit et puis il n'y avait pas de menu. Elle me dit c'est normal, c'est un restaurant WeChat, donc le menu tu l'as sur ton smartphone sur WeChat. Alors, encore faut-il évidemment bien sûr parler et lire le chinois. Donc c'est ce qu'elle a fait. Elle sait ce que j'aime, elle a choisi les plats. On a eu une vraie serveuse qui est arrivée quelques minutes après. Voilà, on a eu notre repas. Donc jusqu'à là, je dirais que j'étais pas trop impressionné parce que finalement avoir un menu sous forme digitale, c'est pas très impressionnant. À la fin du repas, j'ai dit bon maintenant voilà, demande la note, il faut que je paye. Elle m'a dit mais tu peux pas payer. Tu peux pas payer, t'as pas de compte WeChat, tu n'as pas de porte-monnaie WeChat. Il y a que moi qui peux payer pour toi. Donc autre exemple, vous allez, pour ceux qui ont déjà été en Chine, vous l'avez peut-être vécu, dans les plus grandes villes maintenant, si vous ne passez pas par les services de réservation de taxi ou de type Uber ou de Didi, comme ils s'appellent, qui sont intégrés dans WeChat, eh bien vous pouvez faire vous pouvez rester dehors à attendre un taxi, ils sont tous déjà réservés, vous ne pouvez pas prendre de taxi. C'est très compliqué, il faut passer par WeChat. Donc WeChat, c'est un réseau social, c'est un outil de recommandation de marques, de produits, c'est un moyen d'acheter également maintenant les produits. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut intégrer quand on veut arriver en Chine, on veut vendre en Chine. Et puis, quand on parle de WeChat et des réseaux sociaux, on parle des influenceurs. Alors, qu'est-ce que c'est que, quel est le rôle des influenceurs en Chine ?
Alors, comme ce que j'ai présenté avant, les réseaux sociaux maintenant sont vraiment quasiment les seules sources des informations que nous utilisons tous les jours. Et nous faisons plus confiance qu'à influenceurs, qu'à la pub. Comme si je vais chercher un produit, je vais chercher des informations sur un produit, je cherche d'abord sur les réseaux sociaux ou les sites web spécialisés de ce domaine. Et après, je lis très attentivement les conseils des influenceurs parce que les influenceurs, ils font des recommandations après les avoir essayé les produits. Et en plus, les influenceurs, les meilleurs influenceurs se distinguent avec la présentation très ludique, très claire, et comme ils vont présenter leur contenu marketing sans être une publicité faite par la marque, comme ils présentent le produit en live streaming, en live vidéo, lors d'un cours de cuisine, ou écrire un article concernant l'histoire de la marque, ou faire quelques recommandations de produits sur la manière d'utiliser, etc. C'est vraiment très varié.
Donc Binju parlait des cours de cuisine. On a eu, voilà, on a permis donc à une marque qu'on connaît tous ici en France, qui s'appelle Régilet, de percer l'an dernier sur le marché chinois, surtout après une opération qu'on a montée avec un influenceur, pas une, mais un garçon qui est spécialisé en fitness, et donc qui est suivi par des centaines de milliers de followers. Donc on a fait appel à lui, on lui a payé un cours de cuisine, il a fait des recettes de cuisine française, enfin à base de lait en poudre, notamment de Régilet. Bon, on peut pas tout montrer aujourd'hui, mais on a des vidéos pour ceux que ça intéresse. Je pourrais vous montrer ça. Il a fait donc des vidéos de cette expérience-là, et à la suite de ça, on a vendu 8000 boîtes de lait, là où on était à quelques dizaines de boîtes de lait par jour. Juste avant le fameux Double 11, le 11-11, on a fait des scores de plusieurs milliers de boîtes de lait grâce à ces influenceurs. Donc il faut vraiment travailler avec ces personnes-là pour gagner la confiance, surtout quand on est une marque qui n'est pas connue. Et puis, vous avez besoin également d'un service consommateur. Alors, le service consommateur, il est autant avant-vente qu'après-vente. Parmi les différences culturelles importantes qu'on a pu observer entre le e-commerce chinois et ce qu'on vit, nous, ici en France, vous avez, par exemple, des Chinois qui vont prendre contact avec le site. Donc, par exemple, la boutique France, donc on a, nous, un chat center. Ça ne se fait pas par téléphone, hein. Tout se fait par chat. C'est AliWangWang, c'est des applications de chat qui sont utilisées donc, par les consommateurs, qui vont vous dire, voilà, j'ai vu des pots des pots bébés là, qui m'intéressent. Je voudrais vous en prendre un lot de 6, mais... J'ai ma sœur et j'ai une copine de ma sœur qui sont intéressées aussi. Si je vous en prends en 3 fois plus, qu'est-ce que vous me faites comme prix ? Donc ils font tous les jours, ils négocient, même sur les places de marché, pour obtenir le plus d'avantages possible. On a aussi un exemple qui m'avait pas mal amusé. On vend dans le domaine de la cosmétique une marque qui s'appelle Arc-en-Ciel, qui a aussi bien percé en Chine grâce à la boutique France. Et on a une consommatrice, j'étais sur place à un moment donné, je me suis fait traduire, une consommatrice qui a dit, voilà, moi j'ai vu que vous aviez, il y a ce rouge à lèvres-là qui m'intéresse bien. Voici la photo de la jupe que je veux mettre ce week-end pour sortir. Est-ce qu'à votre avis, ça va le faire, ça va bien aller ensemble, etc. Voilà le type de questions auxquelles un service consommateur doit répondre en plus des réclamations à traiter comme je dirais, c'est plus l'habitude ici. Alors, compte tenu donc de l'opportunité offerte par ce marché, mais de sa complexité aussi, on a le groupe La Poste avec son partenaire institutionnel. Donc c'est l'État français à travers Business France, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est l'agence d'internationalisation de l'économie française. On a développé une solution qui s'appelle donc la boutique France et qui est résumée par ce petit film que va nous lancer Isabelle.
La boutique France, la solution e-commerce pour accélérer l'implantation des marques françaises en Chine. La Chine est le plus grand marché de vente en ligne au monde avec 650 millions d'internautes contre 48 millions en France. En Chine, 90% des achats en ligne se font sur des places de marché digital et plus de 60% des Chinois achètent en ligne au moins une fois par semaine. Alibaba domine le commerce en ligne avec 60% de parts de marché, plus de 70 000 marques présentées et réunissant plus de 40 millions de visiteurs par jour. Le site Tmall Global d'Alibaba est la vitrine des marques occidentales en Chine. Cependant, le e-commerce en Chine est différent. Pour réussir, les entreprises occidentales doivent prévoir d'investir énormément de temps et d'argent. Pour réussir seul votre business en Chine, il vous faudrait une licence commerciale, un site web en chinois avec un service client avant-vente et après-vente, ainsi qu'un stock local de préparation de commandes. Néanmoins, il existe une solution plus simple et plus rapide. La boutique France sur Tmall Global d'Alibaba est un service unique qui vous permet de tirer parti de l'acteur leader du e-commerce chinois et de l'offre logistique colis la plus efficace de France, réalisée par les opérateurs de La Poste, Colissimo et Chronopost. Avec la boutique France, vous n'avez pas besoin de licence commerciale, ni de stock local de commande, et il n'est pas nécessaire de savoir parler chinois. La boutique France est une solution e-commerce complète, avec la gestion et la personnalisation de l'ensemble des contenus en chinois. Un service client 7 jours sur 7 dans le bon fuseau horaire, une prise en charge et une gestion du dédouanement, y compris fiscal, et la gestion de la logistique, transport, export. La boutique France, une solution clé en main. Confiez-nous vos photos, vos tarifs et vos colis et nous nous chargeons de tout. Adhérer à la boutique France, c'est la promesse de vendre en Chine 2 mois seulement après votre inscription. c'est aussi accéder aux avantages de ce gigantesque marché de 450 millions d'acheteurs grâce à une équipe dédiée et pour un coût 10 fois inférieur à ce que vous auriez dû payer en direct.
Voilà, donc vous l'avez compris, c'est une prestation, enfin on va dire c'est un ensemble de prestations qui s'appuie sur deux piliers, un pilier digital, un pilier transport logistique. Vous nous confiez vos photos, les fiches techniques de vos produits, on vous aide à les choisir. Et puis on va les mettre en ligne avec notre partenaire chinois. On va en faire la promotion parce que sans promotion, sans marketing sur ce type de place de marché, c'est pas la peine d'y aller. Il y a des on parle d'un milliard de références produits dans le groupe Alibaba. Il y a des dizaines de milliers de sites, de flagship stores, comme on les appelle. Donc il faut absolument faire du marketing promotionnel. Et évidemment, la finalité de tout ça, c'est d'obtenir des commandes. Nous recevons à Paris, dans l'équipe donc Boutique France, qui se trouve au siège du groupe La Poste, au quotidien, les commandes de la veille et du matin même, qu'on contrôle et qu'on met ensuite à disposition de l'ensemble de nos marques clientes qui ont 48 heures pour préparer les colis correspondants. Colissimo passe, la Poste passe chercher ses colis chaque jour et grâce au service de Colissimo, dans 60% des cas, hein, c'est les chiffres de l'année passée, je regarde Marie-Laure qui représente la partie Colissimo du groupe La Poste. Sur les statistiques 2017, 60% des colis sont livrés en 5 jours sur 1 million de colis et 97% en 8 jours ou 7 jours. 7 jours ou 8 jours. Voilà. Alors, dans le petit film, on parlait que de Tmall Global. Depuis Tmall Global, depuis presque 2 ans, puisqu'on on a commencé fin 2016 cette activité-là, on a ouvert notre flagship store de la boutique France fin 2016 et depuis nous sommes maintenant sur nous sommes en tout sur 4 plateformes. On est sur donc Tmall, JD, non pas JD.com mais JD Worldwide, sur Kaola, et depuis cette semaine nous avons ouvert un flagship store sur WeChat, car WeChat, on était déjà présent sur WeChat pour interagir avec nos followers, pour tirer parti de nos collaborations avec les influenceurs, avec les KOL. Mais WeChat a également, maintenant, WeChat se met également au e-commerce et tous nos clients se retrouvent maintenant sur WeChat. Ça fait donc une quadruple exposition au marché chinois. Alors, tout ça, c'est, vous l'avez compris, alors, il y a eu un gros développement technique, informatique, entre les plateformes chinoises, Alibaba, JD, etc., notre partenaire qu'on appelle communément en Chine un Tipeee, un technical partner ou un Tmall partner. On a également développé un système d'échange de fichiers entre notre partenaire qui est à Pékin et nous-mêmes et nos marques. Mais c'est surtout le résultat d'un travail d'équipe avec des équipes biculturelles, deux équipes, une équipe de Chinois donc, qui est à Pékin, et puis l'équipe française ici au siège de La Poste. Alors combien ça coûte tout ça ? Si vous voulez aller en Chine seul, évidemment vous pouvez le faire si vous avez du temps et surtout si vous avez beaucoup, beaucoup d'argent. Parce qu'on entend souvent parler de choses, notamment on a des représentants de Alibaba et de JD qui sont en France et qui disent certaines choses qui ne sont pas tout à fait justes. Pourquoi ça coûte cher d'aller sur ces plateformes ? Parce que les plateformes elles-mêmes, contrairement à la France, quand vous allez sur Amazon, vous n'avez rien à payer. Vous n'avez que des commissions à payer sur les ventes. Il n'y a pas de frais d'adhésion. Eh bien, en Chine, quand vous voulez aller sur Tmall Global, c'est 23 000 euros par an. Quand vous voulez aller sur JD, c'est 18 000 euros par an. Quand vous voulez aller sur Kaola, c'est 18 750 euros par an. Ça, c'est uniquement pour avoir le droit d'avoir un emplacement sur ces plateformes. Après, vous devez avoir un partenaire qui va gérer votre boutique en ligne, qui va créer les pages produits, qui va lancer les actions marketing, qui va s'occuper du CPC, ce qu'on appelle, hein, vous connaissez tout ça, le CPM, toutes les opérations avec les blogueurs, et lui, et qui gère également le service consommateur, lui, c'est quelques milliers d'euros également par mois. Et puis quand vous avez fait tout ça, Vous n'avez pas fait grand-chose parce que vous avez une boutique, vous avez un partenaire, mais vous n'êtes pas visible puisqu'il y a des dizaines de milliers de sites, je l'ai dit tout à l'heure, et un milliard de produits. Il va falloir donc que le plus gros de votre budget soit un budget marketing. Sur ces plateformes-là, en dessous de 500 000 euros par an de budget marketing, ce n'est pas la peine d'y aller. Il y a des plus petites plateformes qui sont moins chères, mais sur les grandes plateformes comme Tmall, JD, Kaola, il faut une grosse force de frappe, et encore 500 000 euros par an, c'est vraiment le minimum. Ensuite, vous avez les frais, les commissions à payer, un petit peu comme ce qu'on connaît nous ici en Occident avec Amazon, eBay ou que sais-je. Bon, là, elles sont un petit peu moins chères, les commissions en Chine. On est à 16%, on est plutôt à 20-25% sur Amazon. Voilà, donc nous, la Poste, qu'est-ce qu'on a fait? On a mutualisé l'ensemble de ces coûts. On vous amène sur toutes ces plateformes, on s'occupe de tout, hein, on l'a vu, du service consommateur, et puis la Poste a fait également quelque chose d'important, elle a dégagé un budget marketing d'1 200 000 euros pour cette année, c'était 1 million d'euros au démarrage, enfin en 2017. Ce budget marketing, il est mis à la disposition des marques et il nous permet de financer, on va dire, une demi-douzaine d'actions par an. Les fameux grands événements dont vous avez certainement entendu parler, comme le 11-11, le Black Friday et d'autres événements de ce type. Et puis également environ une demi-douzaine d'événements plus spécifiques avec des KOL. Et les KOL, ça coûte aussi pas mal d'argent. Un KOL comme celui que j'ai nommé tout à l'heure, enfin que j'ai cité tout à l'heure sur le lait, ça vaut 6 000 euros. C'est des gens qui ont minimum 150 000, 200 000 followers, même souvent bien plus que ça. Donc ça, c'est un coût. Donc nous, avons une offre qui a un coût fixe et un coût variable également. Le coût fixe, il est de 50 000 euros par an. Il faut savoir que ce coût fixe qui vous donne accès à toutes ces prestations, il est couvert aux deux tiers par l'assurance prospection BPI France. Donc nous avons, sur la quinzaine de marques qui ont signé avec nous, on a le tiers, on a cinq sociétés qui sont là grâce également à l'assurance BPI Prospection, l'assurance Prospection BPI France, pardon. Ça veut dire donc un engagement réel d'environ 18 000 euros par an. Et puis, nous avons le même niveau de commission que si vous alliez par vous-même en Chine. C'est-à-dire que vous vendez 100 euros et nous vous transférons 84 euros à la fin de chaque mois quand nous recevons l'argent de Alipay, Tenpay, WeChat Pay, enfin les tiers de paiement. Alors les taxes chinoises, donc j'ai fait mention tout à l'heure effectivement des taxes chinoises. Vous avez un forfait de taxation, par exemple de 15% ou de 30%, alors que vous devez normalement intégrer dans votre prix de vente, puisque les prix sont DDP ou TTC. Vous avez un autre avantage à travailler avec la Poste, et vous l'avez peut-être vécu vous-même, si vous avez acheté des produits venant de l'étranger, en dehors de l'Union européenne, et qui vous ont été livrés par Colissimo, par la Poste, c'est extrêmement rare que vous ayez eu à payer des droits et taxes. Et la situation est la même en Chine, la situation est la même dans tous les pays. C'est lié un peu à l'organisation des postes. Si ça intéresse des gens, j'expliquerai pourquoi en dehors de la conférence. On a eu, sur le million de colis qui ont été envoyés en Chine l'an dernier, 5% de colis qui ont été taxés. Donc, en vérité, ce qu'on conseille à nos clients marques, c'est d'intégrer effectivement un risque de taxation, mais pas l'intégralité des 15%, parce que très très peu de ces colis sont réellement taxés. Peu de colis taxables sont réellement taxés. Donc de ce côté-là, vous avez vraiment un gros avantage à partir avec la Poste. Voilà, on a eu une quinzaine de marques qui nous ont fait confiance depuis 20 mois. On a commencé avec la cosmétique, on a accéléré avec l'alimentaire depuis le début 2018. Et puis, effectivement, on découvre au fur et à mesure de nos déplacements et nos contacts avec la Chine que le marché de la puériculture est véritablement un secteur hyper intéressant. On l'a dit, il y a beaucoup de sensibilité par rapport à la qualité, à la santé des enfants, il y a la priorité donnée aux enfants des familles chinoises, enfin un peu comme chez nous, mais peut-être encore plus important chez eux, qui fait qu'on a, on a décidé de venir à la rencontre, de venir à votre rencontre, à la rencontre des marques de puériculture française, pour leur dire qu'il y a vraiment un bon coup à jouer là pour vous, et on est là pour vous y aider. Et parmi ces marques, une de nos premières marques clientes, c'est Tekoya. Donc je vais passer la parole à Isabelle, et voilà, elle va vous dire pourquoi ils ont choisi la Chine et qu'est-ce qu'ils font avec la boutique France, notamment en Chine.
Bonjour à tous, donc je m'appelle Isabelle Zuo, je suis responsable digital chez Tekoya et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de notre expérience que nous avons eue avec la boutique France. Donc déjà Tekoya, qu'est-ce que c'est ? Alors, Tekoya c'est une marque française de purificateurs d'air, on commercialise et on fabrique des purificateurs d'air 100% français. Notre technologie est basée en fait sur une innovation qui a plus de 15 ans de recherche. Et notre but de l'appareil, c'est vraiment de produire en grande quantité des ions négatifs qui sont présents près des cascades. Et ces ions négatifs vont toucher tout ce qui est polluant de l'air. Et ensuite, il faut les précipiter au sol pour se débarrasser de l'air, en fait, de tout ce qui est polluant de l'air. Nous, on vend beaucoup de nos produits en Chine. La plupart de nos produits, plus de moitié du chiffre d'affaires, se trouvent en Chine. Tout simplement parce qu'en Chine, pollution, c'est quand même un enjeu public là-bas de santé. Pour vous donner quelques chiffres, par exemple, en 2016, l'OMS a comptabilisé 7 millions de morts prématurées en Chine, dans le monde à cause de la pollution, dont 1,6 million en Chine. Sur les populations très sensibles à la pollution, il y a justement les enfants, parce que ça peut favoriser tout ce qui est développement du poumon à cause de la pollution de l'air, défavorisée, pardon. Et la pollution de l'air a aussi un impact significatif sur la croissance du fœtus. Et c'est un bébé en moyenne respire 30% de plus de pollution qu'un adulte. Pour vous donner une idée, par exemple, à Pékin, la pollution de l'air est à 300 tous les jours. 300, c'est l'équivalent du triple de pollution parisien. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez dans les médias un pic de pollution parisien, à Pékin, ils sont tous les jours à 300. Donc pour eux, un pic de pollution, c'est vraiment quand le chiffre dépasse 500. Donc là-bas, c'est vraiment un marché que pour nous, on était obligé, un purificateur d'air, d'être présent en fait. Après, notre marque, on se positionne vraiment sur un côté très facile à utiliser, garantie 10 ans, où vous n'avez pas besoin de filtre à remplacer, il est totalement silencieux, vous pouvez le mettre à côté dans une chambre. Et on a un cible qui est vraiment enfant, pas jeunes parents d'enfants et de personnes âgées. On a décliné par exemple notre gamme en plusieurs couleurs pour mieux convenir à des chambres. Et on a un produit qui se différencie des concurrents parce que les concurrents, il faut remplacer un filtre, il faut coûter, il faut payer les filtres en plus, etc. Donc c'est un coût supplémentaire que nous n'avons pas. Et on est 100% fabrication française en fait. Donc c'est pour ça que nous avons décidé vraiment de s'implanter en Chine via justement le e-commerce, puisque c'est vraiment l'axe principal. Et le cross-border, on a eu une expérience assez réussie, assez courte, tout au début de la création de Tekoya. Et on a trouvé ça qui était intéressant, et donc on a collaboré avec la boutique France pour être sur les plateformes de cross-border. Donc pour le contexte... Comme vous l'avez dit, Marc, tout à l'heure, le marché de la périculture est vraiment très, très développé en Chine. Nous, avec un produit adapté à une forte demande en Chine, il était un peu plus compliqué de se différencier des concurrents, parce que les concurrents, ils sont plus de 200-300 marques en Chine. Contrairement en France, ils sont 40-50. Et pour nous, on a vraiment voulu se axer, plus cibler les jeunes parents pour avoir une différence par rapport à nos concurrents, en fait. Où ils ont des produits qui sont utilisés plus en intermittence, alors que le nôtre, il est vraiment ouvert 24 heures sur 24. Donc, je vais vous parler un peu de notre expérience avec LBF. Donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est vraiment la présence sur plusieurs plateformes chinoises. Là, on est avec LBF, on est présent sur les deux plateformes principales de e-commerce en Chine. et l'autre plateforme de Kaola, qui est aussi une plateforme de produits importés. Ce qui est intéressant pour nous, ça permet d'englober vraiment toute une population chinoise. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'expérience client. C'est-à-dire que le client, il va recevoir un colis qui vient directement de France, avec tous les papiers dessus, comme quoi le produit est bien français. Et ça, pour son expérience, c'est plutôt important, puisqu'il est sûr de recevoir un produit qui est authentique, de bonne qualité, venant de France. Ou sur Internet en Chine, ils ont du mal à faire la différence entre un produit qui est de marque chinoise, qui se fait passer pour une marque étrangère, et un produit qui est vraiment importé étranger, en fait. Ensuite, il est sûr de ne pas acheter de contrefaçon. Donc en Chine, il y a beaucoup de contrefaçon au niveau de n'importe quel produit. Après, contrairement à ce que vous pensez, la rapidité de livraison est quand même très rapide. Comme Marc l'avait dit, c'est entre 5 et 8 jours. Donc en fait, ce n'est pas aussi long qu'on pourrait le penser un produit qui passe par exemple la douane, etc., où ça prend beaucoup plus de temps. Et on a aussi des tarifs privilégiés parce qu'on a collaboration avec Olissimo. Ensuite, la boutique France, c'est aussi un assemblage de marques françaises. Donc là-bas, c'est vrai que le Made in France est plus connu pour le luxe, ou la gastronomie, etc. Mais après, les consommateurs chinois sont quand même une population qui aime bien acheter des produits importés. Contrairement aux Japonais et aux Coréens, qui sont beaucoup moins plus protectionnistes, qui vont acheter des marques de leur pays, alors qu'en Chine, ils sont plus aptes à acheter des produits importés, surtout de l'électroménager ou de la nourriture, etc. Ils ne sont pas du tout contre le fait d'acheter des produits non chinois. Au contraire, c'est plus un gage de qualité et de savoir-faire pour eux, en fait. Ensuite, ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est tout ce qui est gestion de SAV, c'est-à-dire comme l'équipe est vraiment chinoise, bilingue et anglais, on peut vraiment communiquer bien avec eux pour tout ce qui est géré, tout ce qui est SAV, parce qu'il y a une façon spéciale de gérer le SAV en Chine, où il faut être vraiment très très patient avec le client, parce que les consommateurs chinois sont très très difficiles, surtout en vente en ligne, ce sont les plus difficiles au monde. Et pour pouvoir leur satisfaire, c'est vrai qu'il faut plus une équipe chinoise bien adaptée, etc., pour gérer tous les cas SAV. Ensuite, ce que Marc disait, c'est que être présent sur la plateforme e-commerce n'est pas suffisant. Il faut faire des actions marketing, tout ce qui est autour. Nous, par exemple, avec eux, on fait de la pub sponsorisée directement sur les sites, comme sur Amazon, vous voyez, par exemple, si vous tapez le mot purificateur d'air, il y a des annonces qui sortent au début, et ça, c'est le genre d'action marketing qu'on fait avec eux, et on fait des collaborations aussi avec sous forme de WeChat, où on trouve des influenceurs, etc., et on collabore avec eux pour essayer d'avoir de la visibilité et de notoriété sur le produit, en fait. Ensuite, on est présent aussi sur les réseaux sociaux. On essaye d'écrire des articles de temps en temps, de poster sur le Facebook chinois, sur le WhatsApp chinois. Toutes ces actions marketing permettent d'améliorer la visibilité et l'autorité de l'entreprise. On a notre site en chinois pour les clients qui veulent mieux comprendre. On a fait quelques actions de référencement sur le moteur de recherche Baidu pour qu'on soit trouvable. Et ensuite, on a plusieurs expériences assez réussies avec justement des blogueuses mamans. C'est vraiment notre cible en Chine, donc on essaie de collaborer vraiment avec des blogueuses mamans. On les fait tester nos produits ou juste on leur demande des partenariats. Et dès qu'ils écrivent une réponse assez positive ou des articles assez positifs sur le produit, après les ventes derrière se passent plutôt assez bien. Voilà. Enfin, je vais terminer un petit peu par vous présenter le système de Tmall. Ce que vous voyez là, c'est le site e-commerce de Tmall. Là, le e-commerce global, il y a une partie, tout ce qui est produit importé ici, qui est intégré en fait au site principal. Quand vous tapez, par exemple, là, je tape le nom de Tekoya, la marque, ici, vous avez un petit drapeau pour dire que le produit, il est bien français. Et ici, vous avez la marque pour dire que ici, vous êtes sur la partie avec les produits importés, pour bien prouver que le produit, il vient de France. Après, vous avez ici directement la page produit. Tout en haut, vous avez la boutique France avec tout ce qui est bandeau de la boutique et tous les détails. Là, il y a écrit, par exemple, cosmétiques, etc. Et nous, voici la présentation de notre produit avec ici un commentaire pour dire que le produit est de français. Avec ici la livraison de France par la douane et vers les pays où les personnes y veulent. Voilà. Donc, pour nous, LBS, c'est un très bon canot de e-commerce en Chine. Et c'est vrai que pour nous, on est plutôt satisfait jusqu'à maintenant. Voilà. Merci.
Voilà, si vous avez des questions, maintenant tout de suite. Oui.
Qu'en est-il des problèmes de certification produit ?
Alors, vous n'étiez pas là au début. Sont les suivantes. Vous devez vendre vos produits à travers une plateforme localisée en Chine, une plateforme de e-commerce localisée en Chine, c'est notre cas. Vous êtes limité dans les transactions, pas plus de 2000 yuan par transaction et pas plus de 20 000 yuan par transaction et par an, par personne. Bon, 2000 yuan, vous disiez, ça fait en gros 260 euros à chaque fois par commande. Hein. Et puis, alors si vous êtes au-dessus, ça marche, vous pouvez quand même vendre, mais vous allez avoir une taxation, la taxation du régime commun qui va s'appliquer, au lieu de la taxation forfaitaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, quelle est la troisième condition ? Donc, il faut faire vraiment du B2C. Il ne faut pas faire du B2B2C. Si vous faites du vrai B2C, typiquement ce que nous faisons, nous, quand vous satisfaisez à ces trois conditions, transaction inférieure à 2 000 yuan par transaction, vendre à travers une plateforme localisée en Chine. Donc, si vous avez un site, vous, en France, vous le traduisez en chinois, ça ne marche pas. Si vous satisfaisez ces trois conditions, alors, l'enregistrement, vous êtes dispensé d'enregistrer votre marque et vos produits auprès de la CIC et de la CFDA. Alors, ce qui est grave, c'est que même s'il n'est pas normalisé CE, la seule condition exigée par les plateformes, c'est que votre marque, c'est que la marque soit enregistrée en dehors de Chine. Nous fournissons à chaque fois, on a un enregistrement qui est administratif, qui n'est pas un enregistrement réglementaire. Donc, on a un enregistrement administratif sur chacune des plateformes qui n'exige que deux choses de notre part, puisque c'est nous qui avons ouvert les boutiques en ligne, la boutique France sur ces plateformes. C'est un, la copie officielle du dépôt auprès de l'INPI de votre marque. Deux, une autorisation signée par un représentant légal de l'entreprise de commercialiser sa marque à travers la boutique France du groupe La Poste. C'est tout. Donc, si c'est normal, évidemment, nous sommes La Poste et nous-mêmes, nous faisons un choix, nous sélectionnons également des marques. D'abord, parce que en fonction de ce que le marché, de ce que nous avons compris, de ce que le marché veut. On ne va pas prendre exemple, on a eu il n'y a pas longtemps une marque qui vend des produits bronzants. Les produits bronzants, en Chine, ce n'est pas la peine. Donc on va nous sélectionner également les produits et on va nous plutôt sélectionner des marques de positionnement premium. On ne prend pas des marques d'entrée de gamme, des marques qui sont donc assez qualitatives. Et évidemment, la plupart d'entre elles ont déjà satisfait aux standards français, européens, voire davantage. Mais par exemple, dans le monde de la cosmétique, vous avez une obligation chinoise qui est de faire des tests sur animaux, chose qui est interdite par l'Union européenne. Eh bien, donc il y a beaucoup d'entreprises cosmétiques, de marques de cosmétiques qui refusent de commercialiser leurs produits en Chine parce que ces tests sur animaux sont exigés par les autorités chinoises. Dans le cadre du e-commerce cross-border, elles vendent à travers nous, en toute légalité, puisque là, il n'y a pas besoin d'enregistrer sa marque auprès de la CIC et de la CFDA. La marque doit être enregistrée pour être autorisée sur ces plateformes cross-border. La marque doit avant toute chose être enregistrée en dehors de Chine et l'entreprise, la marque que nous représentons et l'entreprise qui porte cette marque doit être enregistrée dans un registre du commerce non chinois. Maintenant, ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est que vous n'avez pas du tout besoin d'enregistrer votre marque en Chine d'un point de vue AXIC qualitatif. D'un point de vue protection de la propriété intellectuelle, nous vous conseillons quand même de le faire. Mais voilà. Mais vous êtes dispensé de le faire. Pardon ? Alors le taux de retour sur les plateformes cross-border, il est extrêmement faible parce que justement les produits viennent, enfin théoriquement, les produits viennent de loin spécialement pour les consommateurs. Donc les consommateurs savent que les disons qu'il en tout cas les flagship stores mettent comme information que les produits dans la plupart des cas ne se retournent pas. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez, tout dépend de la famille de produits. Dans le monde de l'habillement, de la chaussure, on a vendu notamment la marque Eram, vous avez du retour, et ça c'est effectivement assez problématique pour des raisons douanières, de faire revenir des produits, etc. On a des taux de retour, nous ce qu'on a observé pour l'habillement, en tout cas pour la chaussure, c'est 15%. Eram nous dit que 15%, c'est très peu par rapport à ce à quoi ils s'attendaient, et ce qu'ils subissent, je dirais, et en France et dans d'autres pays européens, comme par exemple l'Allemagne, où on a des taux de retour encore beaucoup plus importants. Maintenant, nous, comme on a commencé et qu'on a majoritairement des marques de cosmétiques et d'alimentaires, là, c'est très simple, il y a zéro retour, parce que d'une part, nous refusons ces retours, la réglementation de ces plateformes nous y autorise, les plateformes cross-border, pas les plateformes domestiques. Et deuxièmement, on ne veut pas prendre effectivement de risques vis-à-vis, on ne veut pas rompre la chaîne de qualité de ces produits-là et on ne veut pas alimenter non plus derrière un marché gris. Donc il n'y a pas du tout de retour pour la cosmétique, l'alimentaire, en tout cas sur notre flagship store. Alors là, on revient dans la mode. Donc nous, là, on a peu de marques de mode. On a une marque qui s'appelle Lestra, et puis on avait donc les chaussures. Alors là, c'est, je dirais, dans la politique commerciale de l'entreprise. On voit avec l'entreprise qui est acceptable de ce qui n'est pas. De manière générale, quand c'est une erreur de la part du consommateur. Évidemment, s'il y a une erreur de picking, si on a envoyé la mauvaise taille ou la mauvaise couleur, pas de discussion, on rembourse et on remplace. Quand ce n'est pas le cas, quand c'est le consommateur qui a changé d'idée, ce qui a été mis en place avec ces sociétés-là, c'est la première demande de ce consommateur, en général, est acceptée. S'il y avait une deuxième demande de remplacement, là, dans ces cas-là, on la refuserait. Oui ? Exact. Ouais. Alors c'est simple. Ouais. Ouais, bien sûr. C'est une question très habituelle qu'on a. Je vous ai dit 15 marques. On a un tiers de marques qui ont bien marché. C'est-à-dire quand je dis bien marché sur une première année. Ça avait été donc renouvelé sur une deuxième année ou qui se sont engagés sur 3 ans. Je veux dire par là qu'elles ont réalisé des chiffres d'affaires en Chine supérieurs à leur investissement, c'est-à-dire qu'à leur coût d'adhésion avec nous. Je parle de chiffre d'affaires, je ne parle pas de résultats. Donc on en a principalement dans la cosmétique, des marques qui ont bien réussi comme Arc-en-Ciel, Centella. Effectivement, Régilet, on a eu un beau succès avec eux. Maintenant, vous avez un tiers de marques qui n'ont pas décollé et qui, vraisemblablement... Voilà, un tiers qui ne décolle pas au bout d'un an plein, plus d'un an, et qui... Alors, il n'y en a aucune qui ne vend rien. Ça, on n'a pas cette expérience-là. Mais si vous voulez, qui sont très, très en dessous, et c'est variable, hein, ça, c'est quelques milliers d'euros à la moitié de l'investissement et du droit d'adhésion. On en a quelques-unes également. Un tiers, on va dire 5 comme ça, et dont déjà 2 d'entre elles décident de jeter l'éponge. Ce qu'on trouve aussi un petit peu... Alors, à la fois, on comprend et en même temps un petit peu dommage, parce que quand on dit... Un an de présence en Chine. En vérité, quand une marque signe avec nous, 2 mois plus tard, elle est commercialisée, elle commence à être commercialisée sur une partie des plateformes. Donc, sur 12 mois, vous avez déjà 2 mois de procédure d'enregistrement. Donc, si au bout de 10 mois, vous jetez l'éponge, ce qu'on peut comprendre, c'est un petit peu dommage parce qu'on n'aura pas eu le temps, si votre marque est inconnue, ce qui est quand même la plupart, c'est le cas pour la plupart de nos clients. Si le produit est peu utilisé et la marque est inconnue, exemple de l'huile d'olive. On a, en ce moment, pour tout vous dire, avec Olivier et compagnie, on a cette discussion-là. Ces gens-là sont depuis 6 mois en ligne. Donc je ne vous donnerai pas le chiffre d'affaires qu'ils ont fait, parce que je pense qu'il faudrait qu'ils soient d'accord. Mais on n'est pas loin... on n'est pas loin de couvrir les frais d'adhésion. Et le directeur général d'Olivier Compagnie, qui était chez nous la semaine dernière, nous a dit on va arrêter. Là, on trouve que c'est frustrant pour eux, c'est frustrant pour nous. C'est dommage parce qu'on vend aujourd'hui, tous les jours, quelques bouteilles d'huile d'olive à des prix qui sont supérieurs à 50 euros les 75 centilitres d'huile d'olive. Et c'est très en dessous de ce à quoi ils s'attendaient, puisqu'ils pensaient en vendre des centaines par jour. Alors évidemment, quand il y a ce discours sur le premier marché mondial du commerce, ces centaines de millions d'acheteurs, et c'est vrai qu'ils existent, hein, mais en vérité, ces centaines de millions d'acheteurs qui représentent ce demi-milliard d'achats, ils achètent quoi ? À 90%, ils achètent la centaine de marques que tout le monde connaît. Et le challenge, c'est de faire réussir des marques qui ne sont pas connues. Et là, en plus, avec l'huile d'olive, on a un double challenge, c'est de faire réussir des marques, une marque qui est inconnue, avec un produit qui n'est pas dans l'alimentation quotidienne des Chinois. Bon, là, je vous donne un exemple. Mais pour terminer ma réponse, on a un tiers de marques qui ont réussi, un tiers de marques qui n'ont pas décollé, et un tiers de marques qui sont là depuis 4-5 mois. Donc là, on va attendre pour tirer des conclusions. Voilà. Je vous remercie, on me fait signe que... Oui, oui. Oui. Alors, la boîte, c'est la... Alors, la boîte, c'est la... Alors, Colissimo, je vais laisser Colissimo répondre.
Bonjour, très rapidement, Marie-Laure Vivet, moi je suis responsable du développement international chez Colissimo, donc la BU Colis du groupe La Poste. Donc la Chine, c'est une destination qu'on adresse depuis très longtemps. Pour les frais de transport, il faut compter une vingtaine d'euros pour un kilo, à peu près. Et l'emballage, c'est celui que vous utiliseriez pour un envoi de France vers l'Angleterre ou un envoi France-France. Hein. Il n'y a pas de particularité sur l'emballage. On livre toute la Chine, alors pas en direct évidemment, on a un partenaire qui est China Post là-bas et qui nous assure cette qualité de livraison dont vous a parlé Marc. En 5 jours, 4 à 5 jours, les colis sont livrés dans les grandes villes chinoises et ça peut mettre jusqu'à 7 à 8 jours dans les régions plus éloignées. On a des commandes du Tibet aussi, donc on livre partout en Chine grâce à ce partenaire. Pour un kilo, hein, pour un kilo, voilà, approximativement, ça peut être un petit peu moins à voir. Voilà, plus le coût d'emballage qui est assez similaire à ce que vous pouvez avoir sur un envoi e-commerce tradit toute destination. Il n'y a pas de particularité. Il faut juste qu'ils soient un peu plus costauds, un peu plus solides. Il faut bien tester la résistance, mais ça, on s'en charge avec vous. On le fait tester sur nos plateformes pour vérifier que l'emballage soit suffisamment résistant. Il prend l'avion plusieurs fois. Voilà, il y a plus de ruptures de charge que pour aller à Londres ou en France. Oui, oui. Là, je vous dis, tout dépend du poids volumétrique aussi, parce que ça prend l'avion et donc on réserve des. Disons que voilà, on peut être. Ça dépend de la taille des emballages, en fait. Voilà, il faut rationaliser le plus possible vos formats. Ça, c'est une particularité du transport aérien, puisqu'on paye les places dans l'avion, donc ça coûte cher le volume. Donc, il faut essayer de rationaliser le contenant par rapport au contenu pour éviter de payer de la place pour rien, hein, tout simplement. Donc. Aussi, oui. Ouais. Il faut intégrer le coût du transport. S'il y a des échanges en dehors, on peut y répondre.